Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. À Dubaï, Ban Ki-moon plaide pour un nouveau modèle de gouvernance. Nous reviendrons sur le report des élections au Nigeria. Il sera aussi question du regain de violence contre la scolarisation des filles et du risque d'un retour de la fièvre aphteuse en Europe. Dans le dossier, nous verrons pourquoi l'OMM s'inquiète des dernières données sur le réchauffement climatique. Et puis, ce sera l'heure de retrouver Fréquence Santé. Après l'Arabie Saoudite, où le secrétaire général s'était rendu ce week-end pour honorer la mémoire du roi Abdullah ben Abdulaziz et rencontrer son successeur, le roi Salman ben Abdulaziz, Ban Ki-moon est aux Émirats Arabes Unis, où il a participé ce lundi à l'ouverture du sommet sur la gouvernance qui se tiendra jusqu'à mercredi à Dubaï. Le point avec Isabelle Dupuis.
À Dubaï, le secrétaire général a indiqué que le monde se trouve à l'aube d'une nouvelle ère de développement qui exige un nouveau modèle de gouvernance responsable, transparent et inclusif. Ban Ki-moon a ainsi exhorté les dirigeants à être à l'écoute de leur population, des femmes notamment, et à les impliquer davantage dans la conception des solutions aux défis du développement. Il les a aussi encouragés à récompenser les entreprises qui se montrent socialement responsables. Ban Ki-moon a également vu dans la technologie de l'information un moteur pour le changement, mais à condition, a-t-il dit, de créer un environnement libre et ouvert qui encourage la critique constructive. À Dubaï, le secrétaire général a aussi souligné qu'il faut répondre aux problèmes de la marginalisation et de l'exclusion qui alimentent la radicalisation. Il a appelé au strict respect des droits de l'homme, qualifiant d'immoral et de contre-productif tout abus commis au nom de la lutte contre le terrorisme.
Merci Isabelle. Ban Ki-moon, qui tout au long de son voyage continue de suivre l'actualité internationale, ainsi à propos du Nigeria où les élections générales prévues le 14 février ont été reportées, le secrétaire général a souligné que ce scrutin doit répondre aux attentes de la population nigériane. Son bon déroulement, a-t-il dit, permettra de renforcer la démocratie et d'aider le pays à continuer de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la paix et de la sécurité régionale. Christina Silvero.
Le secrétaire général des Nations Unies a pris note de la décision de la Commission électorale indépendante nigériane de reporter les élections générales initialement prévues pour le 14 février 2015. Ban Ki-moon exhorte les autorités électorales à prendre toutes les mesures nécessaires, telles que la distribution rapide du reste des cartes d'électeurs permanents, afin de permettre à tous les citoyens admissibles, y compris les personnes déplacées, d'exercer leur droit de vote en temps opportun. Selon lui, ceci est impératif pour assurer une élection crédible, libre et transparente. Au cours de la dernière semaine, le chef de l'ONU s'est entretenu par téléphone avec le président Goodluck Jonathan ainsi que le candidat de l'opposition Muhammadu Buhari. Tous deux ont confirmé leur engagement à la non-violence, la paix et la tolérance pendant les élections telles que soutenues dans l'accord d'Abuja. Ban Ki-moon compte sur les autorités du Nigeria pour mettre les mesures de sécurité adéquates en place afin que les citoyens de tout le pays soient en mesure d'exercer leurs devoirs civiques en toute sécurité et sans crainte.
Les attaques contre les filles scolarisées persistent et augmentent même avec une régularité inquiétante dans certains pays. C'est ce qu'indique une nouvelle étude du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le rapport qui met l'accent sur les conséquences qu'elles ont sur l'éducation des filles. Il a été élaboré par la section des droits de l'homme et du genre du Haut Commissariat que dirige Véronica Birga.
On connaît tous les attaques qui ont eu lieu contre Malala ou les attaques de Boko Haram contre les filles au Nigeria. Mais ce qu'on ignore peut-être, c'est que ces attaques sont beaucoup plus fréquentes de ce qu'on pense normalement. Et on a ces attaques dans beaucoup plus de pays. L'éducation est importante pour tout le monde. C'est un droit fondamental pour tout le monde. Mais pour les filles, c'est particulièrement important parce que les filles partent d'une situation déjà de discrimination, marginalisation. Donc l'éducation, c'est un moyen pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux de discrimination, violence, exclusion.
Une réunion de deux jours se tient au siège de l'UNESCO à Paris pour discuter de la biodiversité et du changement climatique. Un des thèmes soulevés au cours de cette première journée a été « Développer la solidarité écologique et la justice environnementale, faire équipe avec le vivant ». Parmi les intervenants figurait Catherine Larrère, qui enseigne la philosophie à l'Université de Paris 1. Elle explique la relation entre changement climatique et l'érosion de la biodiversité.
Si on réfléchit au changement climatique et aux problèmes que représente l'érosion de la biodiversité, on peut dire que ce qu'il y a de commun, c'est que ça pèse sur le monde entier. que le changement climatique est une sorte de fatalité commune, de sort commun qui s'impose au monde, mais en même temps, ce sort commun est réparti de façon très inégale dans le monde, et l'opposition de la pauvreté et de la richesse est là pour nous le rappeler, et je dirais plus généralement, la diversité des impacts, aussi bien du changement climatique que des formes d'érosion de la biodiversité, fait que ce monde commun est aussi un monde extrêmement diversifié, un monde d'inégalités et d'injustices.
Enfin, la fièvre aphteuse est une maladie animale virale fortement contagieuse, en particulier pour les bovins, les buffles, les porcs, les moutons, les chèvres et les cervidés. Alors que les États membres de l'Union européenne en sont exemples, le virus circule actuellement dans des régions voisines, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. D'où les efforts conjugués de l'Union européenne et de la FAO pour aider les pays à se préparer à toute flambée possible. Ki Soum-Tion, expert de la FAO sur la fièvre aphteuse.
C'est une menace grave pour plusieurs raisons. D'abord, à cause des zones où la fièvre aphteuse circule. En effet, on la trouve dans des régions du sud de la Méditerranée, dont certaines ont été très touchées par l'insécurité au cours des dernières années. La situation en Libye, par exemple. Le changement de régime a eu un grand impact. Les animaux ont commencé à se déplacer vers la Libye à travers la frontière au sud du pays, en provenance des pays du Sahel et du Soudan, vers l'Afrique de l'Ouest, puis vers la Libye et l'Égypte, jusqu'à introduire des souches dans les pays voisins de l'Europe. De plus, la situation en Syrie et en Irak a été très préjudiciable pour le contrôle de la fièvre aphteuse, ce qui a fait que certaines souches se sont déplacées du Moyen-Orient jusqu'à l'ouest de l'Algérie. La menace évolue de mois en mois, et nous ne pouvons vraiment pas prédire quelle partie du monde deviendra une menace pour l'Europe.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur les pourparlers sur le climat qui se tiennent cette semaine à Genève. Des négociations qui ont lieu alors qu'un rapport de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, vient d'annoncer que l'année 2014 a battu tous les records de chaleur, et ce, dans le contexte d'une tendance continue au réchauffement. Autre donnée mise en avant par l'OMM, le 21e siècle compte 14 des 15 années les plus chaudes. Les précisions d'Omar Badour, il est responsable de la gestion des données climatologiques à l'OMM.
L'année 2014 donc a continué le rythme de la tendance en hausse des températures globales. Et ceci donc marque 2014 sur le plan statistique comme l'année la plus chaude qui succède aux années précédentes de 2005 et 2010. Ceci dit, depuis l'année 2000 jusqu'à présent, on a enregistré les 14 années les plus chaudes jamais enregistré dans les enregistrements climatologiques. Donc, excepté 1998 qui appartient au siècle passé, toutes les années les plus chaudes, les 14 années les plus chaudes, se trouvent en début de ce siècle. Donc, ceci confirme que sur le long terme, la température globale continue sa tendance à la hausse.
Donc, est-ce que ça inquiète particulièrement l'OMM, cette tendance qui apparemment se confirme ?
Effectivement, parce que à un certain moment, on parlait d'une certaine stabilisation des températures. Ceci était dû en fait à ce que nous appelons ici, dans le jargon météorologique ou climatologique, le phénomène La Niña, qui a tendance à refroidir l'océan Pacifique tropical. Donc, il y avait une certaine illustration comme quoi, sur le plan graphique des courbes, des températures globales, comme s'il y avait une certaine stagnation des températures. Mais cette année, c'est une année neutre, qui n'est pas la Niña, et on voit que 2014 reprend l'allure de la tendance à la hausse. On ne dit pas que ça nous inquiète, mais nous interpelle sur le plan scientifique de voir dans quelle mesure cette information pourrait être utilisée par ceux qui prennent des décisions afin de prendre des décisions qui s'imposent par rapport à la réduction de la cause de cette hausse des températures.
Alors quand on prend le communiqué qui a été publié par l'OMM, on voit qu'on parle de demi-degré de température Celsius. Apparemment, la tendance donc, se dessine. Comment donc sensibiliser le grand public à ces questions-là ?
Les chiffres que nous publions sur le communiqué de presse, c'est des chiffres par rapport à une moyenne à long terme qui se base sur la référence climatologique 1961-1990. Si on mesure maintenant l'augmentation des températures depuis le début du siècle passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire on fait l'écart entre la température enregistrée ces dernières années avec les températures enregistrées au début du siècle passé, on trouve quand même que les températures avoisinent maintenant le 1 degré d'augmentation. Les scientifiques disent que à partir d'un seuil de 2 degrés d'augmentation par rapport à la situation précédente, le système climatique va être complètement chamboulé, avec des incidences difficiles à revenir en arrière, telles que la fonte des glaces, et aussi l'intensification d'un certain nombre de phénomènes climatologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, et aussi des incidences sur les sécheresses. Lorsqu'on parle des moyennes, de l'écart à la moyenne, c'est une moyenne sur toute la planète. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de régions qui reçoivent beaucoup plus que ça. Par exemple, les zones au nord de la planète. Et aussi, les océans, ils emmagasinent toute la chaleur excédentaire qui est produite par l'exploitation des gaz à effet de serre. Ceci donc induit un changement en profondeur au niveau des océans, qui se traduit aussi par une altération de la circulation marine et partant donc une altération de l'ensemble du système climatique. Donc l'indice 0,57 degrés Celsius que nous avons publié cette année, ce n'est qu'un indice qui compare avec une référence réduite dans le temps. Mais à long terme, le rythme qui fait peur, si on continue comme ça, à la fin du siècle, on pourrait aboutir à des températures dont l'impact serait irréversible.
Fréquence, santé, santé.
Cette semaine, coup de projecteur sur le cancer. Deuxième cause de mortalité dans le monde, les cancers sont principalement dus à la consommation de tabac et d'alcool ainsi qu'à l'obésité. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de nouveaux cas devrait augmenter d'environ 70% au cours des deux prochaines décennies. Le docteur Andreas Ulrich est expert en prévention du cancer auprès de l'OMS. Il est au micro d'Isabelle Dupuis.
Bonjour docteur Andreas Ulrich, vous êtes donc expert en contrôle du cancer auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur de l'impact du cancer sur la santé mondiale à l'heure actuelle?
Seconde cause de mortalité globale, c'est-à-dire c'est un impact énorme sur la santé de la population mondiale. C'est dû à certains facteurs de risque qui se propagent mondialement, comme l'usage du tabac, l'obésité, l'alcool. Le cancer, ce n'est pas quelque chose qui arrive du ciel, mais c'est quelque chose où on connaît les causes et on a des stratégies de prévention et du management.
Donc, certaines des causes que vous évoquez sont surtout dues à des styles de vie peu sains. Que peuvent faire les gouvernements pour justement sensibiliser les populations, les inciter à changer ces habitudes néfastes?
Tout ça, c'est un débat social aussi sur quel est le rôle de l'État, quel est le rôle du secteur privé et quel est le rôle individuel à changer le mode de vie. Point de vue OMS, on a certaines stratégies qu'on a décidées, qu'on a élaborées pendant les derniers 10 ans qui résultaient dans une stratégie globale de maladies non transmissibles, car pour chaque facteur de risque, des choix politiques où on connaît l'effectivité. Par exemple, l'impôt sur les produits du tabac a un effet signifiant à réduire la consommation du tabac. La stratégie de l'OMS contre le tabac est très très solide parce qu'on a au-delà d'une recommandation, on a un traité, le traité cadre contre le tabac, qui a une valeur légale pour les gouvernements d'une obligation de mettre en force certaines règles du jeu.
Existe-t-il aussi des écarts entre la prévalence du cancer dans les pays développés ou les pays à revenus faibles ou intermédiaires?
Oui, le cancer, c'est une entité de 200, 300 différents types de maladies. On dit du cancer, mais c'est assez très varié selon les facteurs de risque qui sont derrière. Alors, dans les pays en voie de développement, on a un spectre de facteurs d'exposition, facteurs de risque qui est fondamentalement différent des facteurs de risque du cancer qu'on observe dans les pays développés. C'est surtout les facteurs infectieux. Alors, il y a plusieurs infections qui peuvent causer du cancer. C'est surtout le HPV, le Human Papillomavirus, qui est la cause majeure du cancer du col. Il y a l'infection chronique de la hépatite B, qui est une cause majeure du cancer du foie. Toutes ces infections, c'est très prévalent, et surtout l'hépatite donne des régions d'Afrique ou d'Asie. Alors, on observe beaucoup plus de cancer du foie dans ces pays. Et on a des moyens de prévention par l'immunisation. Ça, c'est extrêmement important d'avoir une très haute couverture d'immunisation dans ces populations. pour prévenir le cancer du foie.
Voilà, et c'est avec le docteur Ulrich que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur Internet à radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.